Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans une semaine formidable, émission bien évidemment consacrée en grande, très grande partie à la Coupe du Monde qui a débuté fin de semaine dernière pour nous. Avec moi autour de la table, ils ne sont pas nombreux, mais de fins connaisseurs de football, Eric Figuère, Bastien Antoine, bonsoir, bonjour.
Bonsoir Léo, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce soir une fois de plus. Voilà, déjà 12 rencontres dans cette Coupe du Monde, 5 jours de compétition. Eric Figuère, je me tourne vers vous, comment on juge ces première journée, ces 12 premières rencontres?
On a eu un peu de tout depuis le début de la compétition maintenant. Beaucoup de matchs, donc on est déjà tout près de l'overdose. Mais bon, ça va, c'est quand même une belle Coupe du Monde. Le niveau est un peu hétéroclite. On voit bien qu'avec 48 équipes, on s'y attendait un petit peu. Les niveaux des uns et des autres sont assez différents.
Alors, il y a des scores fleuves, mais il y a aussi pas mal de matchs nuls. Donc ça...
Il n'y a pas énormément de matchs nuls. Combien il y en a?
Il y en a eu 4.
Avec les Pays-Bas qui ont fait 2-2 contre le Japon. Donc c'était quand même plutôt des matchs pas inintéressants d'ailleurs. C'est assez marrant puisque les matchs nuls sont pas inintéressants à regarder. Trois scores fleuves.
On peut parler des États-Unis, de l'Allemagne et de la Suède.
Exactement, avec quand même une très très belle victoire de l'Allemagne, même s'il a eu un quart d'heure, 20 minutes pour se mettre en route. Elle n'était pas en difficulté, mais il y avait un partout. Donc on n'attendait pas une surprise de Curaçao, mais enfin... c'était quand même un match intéressant pour eux, une belle mise en jambe.
Une première aussi pour Curaçao qui marque son premier but en Coupe du Monde.
Le plus petit pays ayant participé à une Coupe du Monde, c'est plutôt intéressant. 150 000 habitants.
On reviendra bien évidemment en détail sur chacune des rencontres. Mais voilà, vous le dites, un bon début de compétition, agréable.
Un bon début, mais avec quand même... Moi, j'ai
quelques bémols.
Ouais, quelques bémols, parce que le niveau affiché quand même est... Je trouve pas très haut. Voilà, il y a quelques équipes qui sont très agréables, comme les équipes asiatiques, le Japon, la Corée, qui sont très sympas à voir. Le Maroc, qui a fait, on le disait, une très très grosse première mi-temps contre le Brésil. Bon, bien sûr, les scores fleuves, l'Allemagne, la Suède, nous laissent penser que le niveau est quand même plutôt intéressant. On a vu quand même pas mal de buts, donc ça c'est plutôt sympa. Mais c'est normal, avec 48 équipes, je le répète encore une fois, et ce sera sans doute pas la dernière... Les niveaux sont trop disparates pour...
On ne peut pas espérer que des rencontres virevoltantes avec...
Voilà, c'est clair. D'ailleurs, on a eu seulement la première affiche Brésil-Maroc qui vient d'arriver seulement. Et quand on regarde le calendrier du premier tour, bah des affiches, on en a 7-8 maximum.
Oui, c'est difficile de voir de très grosses affiches, c'est vrai, avec ces nombreuses équipes. On va y revenir, mais on va aussi peut-être parler de la météo qui joue peut-être aussi sur cette, les fortes températures. Mais je vais d'abord me tourner vers Bastien. Bastien, Antoine, on est d'accord avec cet avis, une compétition qui a débuté. Alors, est-ce que pour vous, les rencontres sont au niveau attendu ou est-ce qu'on aurait pu s'attendre à un peu mieux pour débuter cette Coupe du Monde?
Disons, je pense que toutes les équipes n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Il y en a qui savent déjà qu'ils iront probablement loin dans la compétition. Il faut se rappeler que dans chaque poule, là, c'est les deux, voire les trois premiers qui vont sortir. Donc c'est vrai que ça entraîne un tout petit peu moins d'enjeux sur la phase des poules.
Meilleur troisième, ouais.
Donc probablement que...
8 sur 12.
Moi, j'ai l'impression que les équipes qui ont été les plus intéressantes, ça a été les petites équipes qui ont joué les matchs à fond sans forcément trop compter, parce qu'ils savent qu'ils seront peut-être pas au bout de la Coupe du Monde, et que s'ils arrivent déjà en 16e de finale, en 8e de finale, ce sera déjà très bien. J'ai l'impression que les grosses équipes, un peu comme le Brésil, étaient plus peut-être en forme de rodage un petit peu et à se chercher un petit peu. D'ailleurs, en 2022, la France avait été un petit peu comme ça dans la phase de poule. Elle se cherchait un petit peu jusqu'à ce que Didier Deschamps mette une équipe à partir des huitièmes de finale. Et ensuite, ça avait été tout le temps la même équipe. Donc, je pense que il y a différents types un petit peu d'équipes, des tout petites équipes qui découvrent la Coupe du Monde, qui du coup, eux, ils se posent pas de questions, et d'autres qui peut-être plus essayent de gérer un petit peu. Moi, je note quand même qu'il y a quand même pas mal de buts dans cette Coupe du Monde, parce qu'il y a plus de...
Il me semble qu'il y en a eu 19 rien qu'aujourd'hui sur les 4 rencontres.
Plus de 2 ou 3 buts par match. On est parfois un petit peu loin de ce que peut parfois nous montrer la Ligue 1 en France, donc c'est déjà pas trop mal.
On fait un peu les difficiles, c'est ce que vous voulez dire des deux côtés, Eric.
Oui, on est exigeant, on attend cette Coupe du Monde tous les 4 ans avec impatience. Et là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses un petit peu négatives autour de cette Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec des à côté qui n'étaient pas forcément très plaisants. Encore une fois, une Coupe du Monde à 48 avec des inquiétudes sur le niveau. C'est vrai que malgré tout, c'est quand même plaisant. Les stades sont pleins, malgré les tarifs plus que prohibitifs affichés. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il n'y a pas une énorme ambiance dans les stades, mais c'est plutôt sympa.
Voilà. Avec trois belles cérémonies d'ouverture aussi, on peut le préciser. Il y en a eu trois cette année, c'est la particularité, puisque trois pays hôtes.
Ouais, moi je ne suis pas très fan des cérémonies d'ouverture, donc je ne vais pas trop m'enflammer. Par contre, ce qui était bien, c'est qu'elles étaient courtes. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour ma part, j'ai plutôt apprécié. Mais non, on avait très vite envie de voir ce que ça donnait sur le terrain. Donc, alors
justement, le terrain, on va en parler. On va débuter avec le groupe A qui a ouvert le bal. Le Mexique, premier pays hôte, donc Mexique, Canada, États-Unis. Le Mexique qui recevait l'Afrique du Sud, une victoire 2-0. Dans l'autre rencontre, c'est la Corée qui a affronté la République tchèque, victoire de la Corée 2-1. Qu'est-ce qu'on retient de ces deux premières rencontres, Ancien Antoine, dans ce groupe A?
Pour avoir regardé le match entre le Mexique et l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis. Pour ceux qui ont regardé le match, ils se sont un petit peu dilapidés tout seuls en essayant de repartir de leur surface comme les grandes équipes le font, et puis ils ont offert un but cadeau au Mexique. Ils ont quasiment offert un deuxième en fin de première période. Donc il faudra que l'Afrique du Sud revoie sa copie s'ils veulent aller plus loin dans la compétition, parce que le groupe A est un groupe assez homogène où toutes les équipes peuvent tirer leur épingle du jeu, mais il y en aura une voire deux qui sera éliminée de cette poule. Donc il faudra réussir à réagir, et la République tchèque, ils jouent leur prochain match contre la République tchèque.
Il sera République tchèque, Afrique du Sud, et donc Mexique contre la Corée.
Voilà, la République tchèque qui a perdu son premier match contre la Corée du Sud, un peu à la surprise, parce qu'ils étaient vus comme les favoris de ce match. La République tchèque voudra réagir, l'Afrique du Sud aussi, donc ça risque de faire des étincelles un petit peu ce match vendredi prochain.
Est-ce qu'on peut dire qu'on est un peu déçu des Mexicains, 2-0 contre l'Afrique du Sud? Bon, ils ont gagné, mais est-ce qu'on s'attendait peut-être à mieux du Mexique?
Non, moi je pense pas qu'on pouvait s'attendre à mieux que ça. Par contre, on pouvait s'attendre à ce que l'Afrique du Sud joue un petit peu mieux. C'est vrai que, comme ça vient d'être dit, on donne un but, l'Afrique du Sud donne un but à la 9e minute de jeu. Donc forcément, ça les a lourdement handicapés, mais le jeu était trop pauvre. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose.
Tant mieux
si je me trompe pour eux, hein, mais en plus, premier match, alors qu'il n'y avait pas de violence ni de mauvais gestes, trois cartons rouges. Donc ça, c'était quand même un petit peu embêtant, et surtout pour l'Afrique du Sud, pour le coup. Ils n'ont pas déjà énormément de joueurs de talent, donc ils se passeront déjà de deux, qui très probablement seront... Ne joueront pas le reste de la compétition. Les deux équipes qui ont gagné, le Mexique et la Corée, sont avec les 8 meilleurs 3e qualifiés pour les matchs à élimination directe, sont presque déjà quasiment qualifiés.
Et puis l'équipe qui s'imposera en fin de semaine entre le Mexique et la Corée aura déjà son billet pour le prochain tour.
On est bien d'accord. La Corée du Sud, alors la Tchéquie relativement faible aussi, très décevante. Et la Corée, par contre, très agréable à voir. Pas une surprise, parce qu'on sait que les deux pays asiatiques, la Corée et le Japon, on le sait maintenant depuis longtemps, jouent très bien au ballon. Et ils nous l'ont prouvé encore, et la Corée et le Japon, avec une très belle prestation.
On va passer au groupe B. Canada, Bosnie, un partout. Qatar, Suisse, un but partout aussi. Voilà, rien n'est fait dans ce groupe B. Tout reste à faire. Qu'est-ce qu'on retient, Qatar, surprenant?
Moi, je suis désolé. Moi, je suis vraiment déçu par le niveau, quoi. Et là, au-delà des matchs nuls des deux matchs,
c'est certain que je l'avais évoqué mercredi dernier, c'est le groupe le plus faible de la compétition, et c'est vrai que c'est pas des matchs qui donnent
envie de se lever à 3h du matin.
Ouais, voilà. La Suisse nous a montré mieux.
Après, il faut faire attention, parce que la Bosnie, la Bosnie-Herzégovine, c'est quand même l'équipe qui a éliminé l'Italie en phase de poule, même si, bien sûr, c'est pas la grande Italie, mais donc c'est une équipe qui peut créer la surprise. Ils ont déjà réussi à tenir le Canada chez lui, parce que bon, le Canada chez lui, poussé par ses supporters, on imagine que mine de rien, ça mène un plus. Après, c'est sûr que la Suisse qui se fait tenir
en échec par
le Qatar, ça, c'est sûr que ce n'est pas un très, très bon résultat.
Surtout repris à la dernière minute ou quasiment. Donc, c'est quand même dur pour eux. Mais vu ce qu'ils ont proposé dans le jeu, quand on propose aussi peu, il n'est pas normal de se faire punir et de repartir avec un point.
Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite dans ce groupe B? Des favoris
Moi, je vais être dur, rien. Rien, on ne s'attend à rien. Alors, il y a forcément une ou deux équipes qui vont s'imposer.
Pourraient passer
Comme j'avais dit, la Bosnie va très certainement remporter un de ses deux prochains matchs. Et donc, avec 4 points, se qualifiera. Voilà, ça c'est, pour moi, c'est très probable. Maintenant, je les avais donné vainqueurs. Pour le coup, ils n'ont pas réussi à obtenir la victoire. Et puis la Suisse quand même va faire mieux que ce qu'elle a proposé là. C'est impensable, même si il y a plus de grands joueurs et Xhaka est quand même le dernier des Mohicans et commence à venir aussi.
Mais après le problème pour la Suisse dans les prochaines rencontres, c'est que c'est face à la Bosnie, face au Canada.
Et le Canada pour le coup a quelques bons joueurs et joue chez elle bien évidemment. Donc, je verrais bien le Canada et la Bosnie passer directement.
Même avis, Bastien ?
C'est sûr que si le Canada gagne pas contre le Qatar au prochain match, le dernier match entre la Suisse et le Canada, ça va être assez épique. Donc non, je pense que le Qatar sera éliminé quand même s'ils ont réussi une belle performance contre la Suisse. Enfin, en tout cas, moi, je les vois pas se qualifier. Et j'ai envie de dire, même pour la suite de la compétition, je serais pas forcément pour qu'ils se qualifient. Le Canada, c'est sûr qu'ils seront poussés par leurs supporters. Ça sera beau. La Suisse et la Bosnie, c'est des équipes qui peuvent créer des surprises ensuite. Donc oui, je pense que ce sera dans ces trois-là qui.
Le Canada a la chance de jouer le Qatar au prochain match. Donc je pense que maintenant tout le monde est prévenu que le Qatar, même avec un jeu relativement pauvre, vendra chèrement sa peau. Donc là, je pense qu'ils seront bien prévenus et ils feront le nécessaire. Et avec 4 points, ils se qualifieront dans les deux premiers.
Allez, c'est noté pour le groupe B. On va passer au groupe C avec là un peu plus d'enjeux. Hein, qui finira en tête? Brésil, Maroc, un très beau match. Alors, c'était le gros match de début de la compétition.
La première affiche.
C'est la première belle affiche de cette Coupe du Monde entre le Brésil et le Maroc, dimanche matin pour nous. Un but partout. Voilà, des Marocains, on le connaît hein, depuis quelques années, qui sont au top niveau, 7e nation mondiale.
Ouais, ils confirment face au Brésil. Franchement, même si Bastien le disait hors antenne, la deuxième mi-temps a été plus délicate. Mais franchement, le match a été de très très bonne facture. Ils confirment, alors la victoire, pas la victoire à la CAN, ça c'est bon, voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais en tous les cas, ils confirment leur demi-finale il y a 4 ans, ce qui est jamais évident. Alors on sait pas jusqu'où ils vont aller, bien sûr, hein, mais simplement.
Mais c'est pas facile de rentrer dans la compétition face au Brésil.
Et puis ils jouent le Brésil. Qui est malgré tout, même si c'est plus le grand Brésil, et quand on dit le grand Brésil, il commence à dater, le grand Brésil, hein, il a plus de 20 ans maintenant, malgré tout ça reste le Brésil, et le Maroc est arrivé pas du tout sur la pointe des pieds, a fait son match comme un patron. Voilà, et ils ont bousculé le Brésil. Ils auraient mérité, à mon sens, si tant est qu'une équipe puisse mériter quand elle finit à un partout, mais elle aurait mérité, à mon sens, de remporter ce match. Elle a été supérieure. Voilà, et ça c'est vraiment une demi très bonne surprise.
Et dans l'autre rencontre de cette poule C, groupe C, l'Écosse contre Haïti. Haïti qui a réussi à ne s'incliner qu'un but à zéro contre l'Écosse. Surprenant cette rencontre. On s'attendait peut-être à un peu plus de la part des Écossais. Ou comme vous le disiez au début, qui sont allés doucement, c'est leur première rencontre. Bastien
Non, moi je pense que l'Écosse a joué son match à fond. Hein. De toute façon, l'Écosse, ce match-là, il faut à tout prix qu'il le gagne. S'ils veulent terminer au moins dans les trois premiers de la poule. Donc, pour avoir regardé une partie du match, ça n'a pas été une partie de plaisir pour l'Écosse. Les Haïtiens ont eu de très nombreuses occasions et auraient pu revenir au score à la fin. Donc je pense que l'Écosse s'en sort très bien. Il va falloir.
Ça risque d'être compliqué pour la suite. On va pas se le cacher contre le Maroc et le Brésil.
Il faudra voir si avec 3 points, ça suffit pour se qualifier pour être parmi les 8 meilleurs 3e sur 12 poules, il me semble.
L'Écosse n'avait pas marqué un but, je crois. J'ai plus le chiffre exact, mais quelque chose comme 25 ans ou 30 ans en Coupe du Monde. Donc bravo à eux contre Haïti, mais ils ont su le faire. Et ça va leur donner une petite possibilité, mais vraiment une toute petite, parce qu'ils vont jouer forcément donc le Brésil et le Maroc. On peut s'attendre logiquement à ce que le Brésil et le Maroc s'imposent. Et donc, ils resteront à 3 points. Ça peut passer. Voilà, on verra.
Il faudra faire les calculs avec l'ensemble match, des groupes.
Prochain match, Maroc et Brésil-Haïti. Donc, on va tout de suite avoir la confirmation si le Maroc est vraiment au-dessus du lot. Parce que les Écossais vont quand même se battre. Et puis, le Brésil, je pense que ça fera pas de, il y aura pas de,
il y aura
pas de
soucis. Ça méritera peut-être quelques changements aussi.
Voilà, il faudra quand même qu'il remplace. J'étais très surpris, pour revenir sur le Brésil, au choix de Carlo Ancelotti sur le choix de l'avant-centre, Thiago. Et quand on voit le déménageur qu'ils ont mis en neuf, ça remet pas du tout en cause évidemment Ancelotti, hein, qui est un des plus grands entraîneurs de tous les temps. Il y a pas de difficulté. Mais par contre, s'il est obligé de mettre Thiago en neuf dans une équipe brésilienne qui est censée quand même regorger de talent, ça fait un peu peur. On a un peu peur pour eux quand même.
On l'a vu à la fin du match, Endrick qui s'attendait à rentrer, qui n'est pas rentré.
Il y a eu 5 remplacements. Endrick n'est pas rentré alors qu'ils avaient besoin justement d'un attaquant supplémentaire pour faire la différence. Pauvre de lui. Et ils me feront peut-être mentir, mais c'est très inquiétant pour le Brésil.
On suivra ça donc en fin de semaine, donc ce sera samedi matin 11h30 Brésil Haïti et donc Écosse Maroc à 9h samedi. On va passer au groupe D avec le troisième et dernier période de cette compétition, les États-Unis contre le Paraguay et l'Australie contre la Turquie. Un petit mot sur les Australiens, surprenant Australien qui
pas tellement surprenant parce que ils nous ont montré quand même toutes ces dernières années que ça jouait quand même un petit peu au ballon. Ce qui est très surprenant, c'est la Turquie. Qui là pour le coup est habitué, si ce n'est des très très bons résultats au niveau international avec des joueurs quand même dans les plus grands championnats, donc ça c'est vraiment très surprenant. Et puis les États-Unis pour le coup a bien rempli son rôle, a bien joué son premier match avec une belle victoire, ça va leur donner confiance. Ils sont suivis par tout un pays, même si on sait que les États-Unis ne sont pas forcément friands de soccer comme on dit là-bas. Mais intéressant plutôt quand même.
Un groupe intéressant et ouvert, si je peux dire ça comme ça, parce que prochaine rencontre États-Unis-Australie, Turquie-Paraguay, Bastien, ça peut changer du jour au lendemain dans ce groupe.
Exactement, moi c'est le genre de groupe qui, comme le groupe A, c'est
le genre de groupe tout le monde peut battre,
voilà,
tout le monde presque.
C'est le genre de groupe qui m'intéresse, comme le groupe F avec les Pays-Bas, Japon, Suède et Tunisie.
On va y venir,
mais c'est des groupes en fait où qui paraissent assez homogènes et du coup qui sont assez intéressant parce que quand on a trois grosses équipes et une toute petite équipe, comme c'est le cas dans pas mal de groupes, le groupe de la France, le groupe du Brésil, vu qu'il y en a trois qui vont sortir, il y a un petit peu moins d'enjeux. Mais là, dans ces poules où tout le monde peut battre un petit peu tout le monde, on en a bien vu la preuve avec l'Australie contre la Turquie. La Turquie amenée quand même par des joueurs comme Arda Güler, c'est quand même des gros noms du football européen. Donc c'est intéressant et je pense que la deuxième journée sera très très intéressante aussi. Le Paraguay pourrait perdre beaucoup parce que la Turquie voudra se ressaisir et le Paraguay pourrait perdre gros si jamais ils enchaînent avec une deuxième défaite, surtout qu'au niveau du goal average, je pense que ce qui peut-être séparera les meilleurs troisièmes au final, c'est le goal average.
Il y aura beaucoup d'équipes à 3, voilà, 4 points en général.
Et donc du coup le Paraguay il pourrait perdre gros s'il perd contre la Turquie. Après, le Paraguay, c'est une équipe sud-américaine qui sait jouer physique, ça sera un match intéressant. Je pense que pareil, États-Unis, Australie, il faudra pas se reposer sur ses lauriers pour les deux équipes, parce que
surtout pour les Américains, hein, parce que voilà, les Australiens ont rien à perdre, ils sont pas chez eux. Les Américains à domicile, c'est sûr que on peut se dire, allez, on a gagné le premier, on se relâche un peu sur le deuxième ou le troisième. Mais
ce qui est sympa, c'est qu'au vu des résultats des premiers matchs, les deuxièmes, alors c'est un peu une palissade que de dire ça, mais les deuxièmes matchs vont être vraiment vraiment très intéressants vu les tirages. Donc, ça c'est plutôt sympa. On peut pas imaginer. Alors États-Unis, Australie, ça va nous faire. Ils vont se départager, je pense, pour la première place. Donc ça c'est plutôt bien parce que le Paraguay semble très mal parti et n'a pas assez de bons joueurs pour faire la différence. Et la Turquie est obligée évidemment de réagir, bon, comme le Paraguay bien sûr, mais la Turquie est quand même d'un niveau au-dessus. Donc s'ils réagissent normalement comme on l'imagine, ils vont se retrouver à 3 points, le Paraguay 0 en 2 matchs, et les États-Unis peut-être, imaginons qu'ils battent l'Australie, auraient 6 points, et l'Australie et la Turquie 3 points chacun. Donc ça va être très intéressant avec des derniers matchs très très intéressant.
Alors le groupe D, on a vu ce qui s'est passé, ce qui reste à faire. Le groupe E, on va essayer d'avancer un petit peu sur ces différents groupes. Le groupe E, l'Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur, ça s'est joué, c'était ce matin pour nous, avec une large victoire de l'Allemagne sur Curaçao. Alors c'est pas étonnant cette large victoire, on retiendra peut-être ce but de Curaçao pour sa première en Coupe du Monde
après qui égalise un contre partout l'Allemagne, à la demi-heure de jeu. C'était assez fabuleux, hein. Je disais tout à l'heure, le plus petit pays ayant participé à la Coupe du Monde, 150 000 habitants, c'est formidable. Bon, après ils prennent
la belle histoire
qui a duré 20 minutes et ils en prennent 6 ensuite derrière. Bon, le score est lourd, mais rien d'illogique à ça.
Et en revanche, cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur, ça s'est joué en toute fin de rencontre. Voilà, un but ivoirien à la fin de la fin. Ça aurait pu tourner dans les deux sens. On a vu les Ivoiriens plus solides peut-être sur les 90 minutes, Eric.
Ouais, j'ai pas vu le match pour le coup, donc je pourrais pas trop en parler, mais le résultat est pas illogique non plus. La Côte d'Ivoire est quand même une belle équipe du continent africain. Exactement. L'Équateur, on parlait du Paraguay juste avant, reste une équipe sud-américaine, toujours un petit peu difficile à bouger. C'est des équipes qui prendront pas ou rarement des gros scores. Donc, tant mieux pour la Côte d'Ivoire et l'Équateur. C'est sûr, en battant Curaçao le prochain match, pour le coup, aura peut-être une petite chance d'être dans les meilleurs troisièmes, mais ça va être compliqué.
Oui, avec un très beau duel, ce sera dimanche entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, de bon matin à 7h.
Une belle affiche.
Une belle affiche avec une équipe qui sera à 6 points, 6 victoires il y a, bien sûr.
C'est sympa pour nous de se réveiller avec des matchs intéressants comme ça.
Vaut mieux ça que Haïti-Écosse, effectivement.
On est bien d'accord.
Le groupe F, pour terminer cette page des rencontres qui sont déjà jouées. Pays-Bas, Japon, 2 partout. Suède, Tunisie, 5-1 pour la Suède. Alors, est-ce que j'ai envie de dire une très belle rencontre entre les Pays-Bas et le Japon, ouverte. Franchement, on s'est régalé sur cette rencontre-là, non, ce matin à 7h. Là aussi, ça valait le coup de se lever pour avoir 4 buts entre deux belles équipes. Un bon niveau ce matin.
Non, c'était un très bon match. Moi je pense que j'étais un petit peu étonné de l'équipe mise en place par les Pays-Bas, qui quand ils arrivent dans les grandes compétitions sortent toujours des joueurs que personne ne connaît trop. Ça leur a donné raison pendant une grande partie du match, mais ils se sont fait égaliser dans les toutes dernières minutes par le Japon. D'ailleurs, un but sur la tête, c'est pas la spécialité des Japonais en général, hein, donc c'est que le football évolue. Mais je pense que les Pays-Bas devront montrer plus. S'ils veulent
terminer en tête
et faire quelque chose dans la Coupe du Monde. Honnêtement, j'ai pas été très impressionné par les Pays-Bas ce matin. C'est plus les Pays-Bas de Robin van Persie, de Robben. Voilà, je pense qu'ils miseront sur leur collectif, mais en tout cas, j'ai pas été très 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 impressionné par les Pays-Bas.
Plus impressionné par la Suède face à la Tunisie. On s'attendait pas forcément à 5 buts suédois ce matin, même s'il y a quand même des joueurs, Yo Kéres notamment, Arsenal, pour ne citer que lui. Surprenante Suède, Eric ?
Surprenante à moitié, parce qu'il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe. La Tunisie n'est pas non plus une grande équipe. Ils ont marqué des beaux buts. C'est quand même à signaler, forcément, quand il y a des joueurs qui frappent bien, qui frappent de loin, qui mettent de belles frappes, et quand c'est placé, ben ça fait des beaux buts, et c'est pas normal de voir un score un peu fleuve. Moi je suis surpris, pas surpris parce que je m'y attendais, mais le faible niveau des Néerlandais. Et on sait que le football néerlandais est en perte de vitesse. Les clubs comme l'Ajax par exemple sont au bord du gouffre, et d'ailleurs ça me fait penser que les Pays-Bas, comme beaucoup d'autres équipes, vont tenir surtout grâce à leurs meilleurs éléments ou prétendus meilleurs éléments. Et aux Pays-Bas, par exemple, Van Dijk, même s'il marque un beau but de la tête derrière, a été un petit peu en difficulté. Et si lui,
ça fait quelques mois qu'il est en difficulté.
Exactement.
Aussi en club,
et si lui ne tient pas la boutique, on l'a vu sur le premier but, derrière le deuxième but japonais marqué de la tête, comme on vient de le dire, c'est pas bon signe pour les Néerlandais. Je pense qu'ils ont des soucis à se faire. Et les Japonais, il faut qu'ils continuent à jouer comme ça, surtout à jouer au ballon, tout en vivacité, en décalage, en prise d'intervalle. C'est vraiment très sympa.
Ouais, un groupe F qui est ouvert, hein, on peut le dire, là, entre les trois équipes, la Tunisie, on peut les oublier.
Pays-Bas, Suède, dimanche, ça va être très sympa là aussi.
Et on va parler justement des prochaines rencontres, avec notamment 4 qui seront à suivre demain. C'est la mi-temps, post-fraîcheur. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie. Allez, de retour pour une semaine formidable, spéciale Coupe du Monde autour de la table. Avec moi, Eric Figuère, Bastien Antoine, toujours là tous les deux pour commenter les matchs à venir, puisque nous avons vu les six premières poules de A à F. Et demain, ce seront les rencontres des groupes G et des groupes H, avec quatre rencontres, encore une fois. Demain, Espagne-Cap-Vert, Belgique-Égypte, Arabie Saoudite-Uruguay, Iran-Nouvelle-Zélande. On va commencer avec le groupe G, avec en ouverture, ce sera donc Belgique-Égypte à 6h du matin pour nous.
Une petite affiche très intéressante. J'espère que Mo Salah va jouer pour l'Égypte. Je n'ai pas regardé s'il était en forme.
Plus intéressante du groupe. Hein.
Pour moi, c'est la plus intéressante du groupe. La Belgique a forcément, après tous ses revers de ces dernières années, a envie de réussir sa Coupe du Monde. L'Égypte est va être tout sauf un faire-valoir. Donc je pense que ça va nous proposer vraiment une belle affiche. Après, derrière, Iran-Nouvelle-Zélande...
Qu'est-ce qui peut arriver dans cette rencontre ?
Il peut arriver beaucoup de choses. On est quand même voisins et amis de la Nouvelle-Zélande, donc on a envie, enfin pour ma part,
de supporter la Nouvelle-Zélande, comme on a supporté l'Australie.
Et qui marque leurs trois premiers points, ce serait quand même sympa. Après, dans ce groupe... Bon, il y a quand même deux équipes au-dessus pour moi, la Belgique et l'Égypte.
C'est pour ça que la rencontre entre la Nouvelle-Zélande et l'Iran pourrait être aussi décisive pour la suite.
Elle va être très importante pour ces deux équipes.
En cas de match nul, pour les deux équipes pourraient dire au revoir à la suite. Oui. Mais une victoire de la Nouvelle-Zélande
L'Iran est supposé être la plus petite équipe, donc c'est la Nouvelle-Zélande qui la joue en première. Elle se doit de prendre les trois points.
Oui, Bastien, même avis sur ce...
Moi, je pense que peut-être que malheureusement, le match Belgique-Égypte, même si ça devrait être un très bon match, il ressemblera peut-être un petit peu au match entre le Brésil et le Maroc, c'est-à-dire des équipes qui essaieront plutôt de gérer et de ne pas perdre. Donc bon, on verra bien demain, mais malheureusement je vois un petit peu ce match comme ça. Pour l'Iran, c'est bien sûr avec tout ce qui leur arrive, les problèmes avec les visas, l'immigration, tout ça, c'est assez marrant parce qu'on ne sait pas trop comment ça va tourner. Ça peut être une équipe qui se resserre par rapport à toute cette adversité et pour finalement réussir des exploits comme malheureusement à ce très très haut niveau. Ça peut être trop de difficultés pour eux dans la préparation et du coup ça aille plutôt en faveur de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui a progressé ces dernières années. On verra si elle a assez progressé pour battre l'Iran. C'est intéressant pour eux.
Ouais, ce serait une belle chose pour le football océanien en ouverture.
Ouais, ce sera un bon juge pour elle, effectivement, de jouer l'Iran là et de voir un petit peu ce qu'elle vaut véritablement sur la scène internationale. Ça va être intéressant à voir. Après, est-ce que le spectacle va être au rendez-vous ? Alors oui, tu as raison, la Belgique et l'Égypte peut-être vont se neutraliser ou en tous les cas ne pas chercher trop à jouer pour ne pas se découvrir et surtout ne pas perdre ce match. Mais à mon avis, ils auraient tout intérêt quand même à le gagner plutôt qu'à essayer de ne pas le perdre. Et on sait que de toute façon, de manière générale, quand on veut ne pas perdre un match, on a plus de chances de le perdre que de le partager ou que de le gagner.
Alors il y a une équipe qui a peu de chances de perdre son premier match, c'est l'Espagne dans le groupe H face au Cap-Vert. Attention quand même, on a vu Yamal remplaçant, mais
il n'y a pas d'inquiétude pour moi à avoir. L'Espagne est aujourd'hui pas l'ultra favori, mais voilà, le favori avec l'équipe de France pour le titre final et l'Argentine bien sûr, et deux trois équipes bien évidemment avec, mais non, ça joue trop bien, c'est trop solide, c'est une équipe qui se connaît parfaitement, elle est parfaitement au point et elle sait ce qu'elle veut, donc elle se fera pas surprendre par le Cap-Vert.
L'Espagne va rouler sur ce groupe. Bastien, en face à eux, il y aura
je pense
l'Arabie Saoudite et l'Uruguay ensuite.
Sur ce groupe, je suis sûr que l'Uruguay c'est une équipe qui est toujours très très difficile à jouer, hein, très très fort défensivement. Oui, l'Espagne contre le Cap-Vert, je pense que sauf énorme surprise, ça devrait être un score un petit peu comme celui de l'Allemagne. Même si le Cap-Vert est quand même une équipe un petit peu meilleure, je pense, que Curaçao. Après le deuxième match, Arabie Saoudite-Uruguay, même si l'Uruguay, je pense que de par son passé, notamment récent, hein, avec des joueurs comme Luis Suarez, peut paraître favori, c'est pas une équipe qui fait beaucoup le jeu. Donc je suis pas sûr qu'ils réussissent vraiment à dominer l'Arabie Saoudite. On verra.
L'Arabie Saoudite, si on remonte un peu, il y a pas très longtemps, qui s'est imposé sur l'Argentine, il me semble.
Oui. 2022. On va voir si l'apport des joueurs étrangers dans leur championnat les a fait progresser. Ça va être assez intéressant pour ça. Je pense pas qu'il y aura de surprise malheureusement pour eux. Je pense pas que ce match contre l'Argentine voilà puisse
ça peut pas leur servir face à des équipes sud-américaines.
Ça peut leur donner confiance, je l'espère pour eux, mais je pense que c'était un match en trompe-l'œil et on n'aura pas trop de surprises.
Ce groupe reste quand même ouvert, à part l'Espagne qui risque de finir en tête. Derrière,
tout le monde peut battre son petit coup à jouer,
notamment face au Cap-Vert. Il peut y avoir pas mal d'équipes à 3 points.
L'Arabie Saoudite peut faire match nul contre l'Uruguay, battre le Cap-Vert et se qualifier avec 4 points, puisqu'ils perdront contre l'Espagne. Donc tout le monde a sa chance. Pour finir deuxième ou troisième
de ce groupe. On va rappeler donc Espagne, Cap-Vert à 3h, Belgique, Égypte à 6h. Arabie Saoudite, Uruguay à 9h et on terminera avec Iran, Nouvelle-Zélande à midi, une belle matinée de football
matinée
aussi.
Là,
on peut se lever pour suivre une belle rencontre de l'Espagne.
6h, Belgique, Égypte et 3h. Bon, on regardera la deuxième mi-temps.
Et après cette journée, il y a bien évidemment la France qui rentre enfin dans la compétition.
Avec impatience.
Ça fait des semaines qu'on attend l'équipe de France dans la Coupe du Monde, c'est long.
Ouais,
mais
c'est
ce que vous disiez en début d'émission, cette Coupe du Monde
il
a.
Paraît, il
tant
paraît
d'équipes.
Plus c'est long, plus c'est bon, il paraît. Donc espérons que ce sera le cas pour l'équipe de France.
Mercredi à 6h contre le Sénégal.
Voilà, on va tout de suite savoir s'il est possible de jouer avec notre numéro 9, capitaine
Kylian
Mbappé en 9.
Il semblerait que Désiré Doué soit titulaire.
A priori, ça va être le cas, oui, avec Olise à droite et Dembélé légèrement en retrait. Je pense qu'il y en a malheureusement, on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y en a un des deux en trop et probablement pas Ousmane Dembélé. Ou alors de repositionner Mbappé à gauche, ce qui supposerait de retirer Doué, qui pour le coup est un des impact players les plus importants pour l'équipe de France aujourd'hui avec Michael Olise. Donc on va voir ce que ça va donner. Tout le monde a l'air d'être au point. Saliba a des petits soucis de dos, mais a priori,
il serait aligné.
Donc ça, c'est quand même très très important. Donc on a hâte. On a hâte d'y être.
6h. Voilà. Ouais, Bastien, cette rencontre, ça y est, ça va lancer pour nous, supporters forcément de l'équipe de France.
Ça peut être une terrible rencontre piège, surtout.
Absolument.
Parce que le Sénégal, sur le papier, a vraiment une très très belle.
On a un très beau groupe, l'équipe de France.
Le groupe est tout sauf facile. Hein.
Moi, je pense. Moi, l'Irak, je les vois quand même en dessous. Donc pour moi, c'est un peu le type de poule où il y a trois belles équipes, France, Sénégal, Norvège, et l'Irak un peu en dessous. Donc ce qui devrait nous permettre, je pense, en tout cas, de ne pas être inquiet pour la qualification. Mais par contre, le match contre le Sénégal, ça, je pense, ça va être
ça peut dicter la suite aussi.
C'est une équipe de France qui sait pas trop encore où est-ce qu'elle va, avec ses quatre joueurs offensifs, qui sait qui va défendre sur les quatre. Donc est-ce qu'on peut jouer comme ça avec quatre joueurs offensifs? Il va falloir qu'ils défendent, hein. C'est pas la spécialité de, bien sûr, que Dembélé au Paris Saint-Germain, il va faire le pressing sur le gardien, mais est-ce que il va réussir
s'il recule un peu sur le terrain là derrière Mbappé,
à défendre Mbappé, est-ce qu'il va défendre? Il va falloir que Olise et Doué soient irréprochables. Parce qu'au top niveau, défendre à deux sur le terrain, à deux milieux sur le terrain, c'est difficile. Après, voilà, la France a gagné la Coupe du Monde 2022 avec Mbappé à gauche et Olise à droite, et deux attaquants, Griezmann et Giroud. Donc ils l'ont déjà fait.
Elle a gagné en 2022.
Oui, elle
a gagné en 2018.
Pardon, mais en tout cas, ils ont été jusqu'en finale. Mais il faut se rappeler quand même que tactiquement, à l'époque, ça avait marché. Donc pourquoi pas cette fois-là.
On suivra ça mercredi matin, donc 6h. Le rendez-vous est pris. France-Sénégal. Ce sera donc le premier match de ce groupe Irak, Norvège à 9h dans la foulée. Il est l'heure pour nous de passer au coup de cœur, coup de gueule pour vous, Eric.
Un coup de cœur, mais qui est surtout un rendez-vous que je donne à tous les amoureux de golf vendredi matin prochain. Débute le 126e US Open dans la région de New York.
Il faudra faire un choix entre le foot et le golf.
Il va falloir réussir à se partager un petit peu, mais là, pour le coup, je donnerai personnellement ma priorité à l'US Open. Et surtout, pourquoi j'en parle? Parce que Adam Scott, le joueur australien, va participer, et j'en reparlerai lundi prochain si d'aventure je suis invité ici, mais jouera ce week-end son 100e tournoi majeur consécutif. Ça fait donc, à raison de 4 tournois majeurs par an, 25 ans, pile, qu'ils jouent les tournois majeurs sans discontinuer, donc c'est tout bonnement exceptionnel.
Quand on voit le nombre de blessures aussi...
Ça n'existe nulle part ailleurs, un joueur qui fait, 100 tournois majeurs au tennis, en golf ou ailleurs consécutifs, c'est juste improbable, parce qu'il faut réussir à se qualifier, il faut réussir à être en bonne forme, et ça c'est tout sauf facile, donc c'est plus qu'un exploit, et j'espère qu'on reparlera de ce joueur à l'avenir. Ah, donc vendredi matin.
On mettra le double écran pour suivre le foot et le golf, et notre ami australien. Bastien Antoine, pour terminer, votre coup de cœur, football, pas football ?
Ouais, si, je vais rester dans le football. Eh bien, en tant que responsable du média Foot NC, je vais rester dans le football et je vais me permettre de revenir tout à la base de cette pyramide du football pour un coup de cœur dans le football calédonien. Moi qui suis régulièrement toutes les compétitions sur le territoire, je suis très content de voir que le football, les footballs provinciaux, repartent vraiment très très bien. Pour ceux qui le suivent, ils s'en rendent compte chaque week-end, et j'invite à ceux qui ne le suivent pas de s'y intéresser.
Sur votre page, notamment Facebook,
sur page ou tout simplement au bord des terrains. Ce week-end, ils étaient 200 personnes à regarder un match entre le FC Belep Mondor et la S-Wetch. C'est ce football un petit peu de proximité. Qui permet plein de clubs un petit peu partout et plein de jeunes qui aient accès au sport. Et c'est plus il y a de gens qui jouent au football et plus il y aura de gens qui joueront bien, en tout cas en Calédonie. Donc voilà, c'est sûr que là aujourd'hui on regarde la Coupe du Monde, mais voilà, il faut pas oublier que ce football d'élite trouve son sens souvent tout à la base du football, et puis c'est ces gens-là qui ensuite ont des rêves plein les yeux quand ils regardent les Coupes du Monde. Donc voilà, petit coup de cœur pour le football provincial calédonien.
Avec en précision aussi la Coupe de Calédonie qui aura lieu à la fin du mois, le week-end du 27 et 28, de belles rencontres, des duels entre clubs de Super League mais aussi des différentes provinces, donc à suivre à la fin du mois. Merci beaucoup messieurs pour cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore une fois Coupe du Monde, bien évidemment.
Avec grand plaisir.
Jusqu'à la mi-juillet.
Bonne soirée à tous.
Bonne Merci soirée beaucoup. Et place tout de suite à Info Soir avec Léana Colombo.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine sportive sur Radio Rythme Bleu.